enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
La mission évangélique Vase d'honneur a le plaisir de vous présenter le message du pasteur Mohamed Sanogo, premier responsable de l'église. Nous vous souhaitons un agréable moment à l'écoute de la parole.
Ensemble, nous allons élever la voix vers le Seigneur pour dire: Seigneur, parle-nous au travers de ta parole, enseigne-nous, conduis-nous, challenge-nous, impacte nos vies afin que nous puissions impacter pour toi. Prie l'Éternel ton Dieu afin qu'il dispose toutes choses et que tu reçoives la parole. Oh Seigneur Dieu des cieux, c'est que nos vies soient agréables à Dieu. Nous sommes en train de parler de la foi. La Bible déclare que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Ma prière, c'est que nos vies dans cette communauté soient agréables, Seigneur. Qu'elles soient, que nos vies soient un parfum pour Dieu.
Les bienfaits sont trop grands, font de mon âme couler des larmes, de mes silences. Comment te dis-je que je ressens? Les bienfaits sont trop grands pour moi. Fond de mon âme coule des larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum de
Seigneur, par ta parole. Oh Dieu,
Viens m'enseigner, viens parler à mon âme, viens parler à ma vie. Seigneur, fais en sorte que ma vie te soit agréable en toutes choses, Seigneur. Oui, fais de moi ce que tu veux. Seigneur, c'est devant toi que je me répands, oh mon Dieu. Fais de moi ce que tu veux. Oh Dieu, je n'ai rien, Seigneur Dieu, mais je me mets devant ta face, oh Dieu. Fais de moi ce que tu veux. Seigneur, je m'humilie devant toi, oh Dieu. Transforme ma vie, Seigneur Dieu. Fais de moi ce que tu veux. Est-ce qu'on peut acclamer ce Seigneur Dieu? Oh, levez le nom du Seigneur. Fais de moi ce que tu veux. Gloire à Dieu. Alléluia. On peut se rasseoir. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur pour ta grâce divine. Merci parce que tu parles au travers de moi. Alors nous sommes aujourd'hui en train d'entrer en profondeur. Nous allons entrer maintenant dans le vif du sujet de la deuxième école de la gloire qui a pour thème Jéhovah Jireh. Amen. Et ce que je vais aborder aujourd'hui, ce sont les cinq étapes pour une foi qui déplace des montagnes. Les cinq étapes pour une foi qui déplace des montagnes. Alléluia. Alléluia. Donc, nous sommes en train de parler de Jéhovah Jireh. Alors encore, j'aime rappeler tout constamment le contexte dans lequel nous sommes, parce qu'il y a tout le temps de nouvelles personnes qui nous visitent. Nous sommes en train de dire que la gloire, la Bible nous montre clairement que la gloire est ce qui manque à l'humanité, est ce qui manque aux hommes. Nous avons souvent cru que nos besoins étaient dans le mariage, dans l'argent. En fait, on a traduit nos besoins dans différentes choses et nous avons couru après ces choses. Certains parmi nous ont même pu obtenir certaines choses auxquelles ils rêvaient. Et ils se sont rendus compte que, après même les avoir obtenus, ils sentaient toujours à l'intérieur d'eux-mêmes un vide. Ils avaient toujours le désir de conquérir encore quelque chose de nouveau. On espérait le mariage, on s'est marié, on rentre dans le foyer, on voit encore que ce n'est pas exactement ça. Et puis on s'est dit peut-être que c'est un enfant qu'il me faut. On a l'enfant, ça va créer une ambiance à la maison, on voit l'enfant encore et puis il nous faut encore quelque chose d'autre. Et puis constamment on est en train de rechercher quelque chose. Alors là, on a vu clairement dans les Écritures que ce que l'homme recherche profondément s'appelle la gloire. Ce qu'il a perdu, c'est la gloire de Dieu. Il l'a traduit dans tous ces différents besoins-là qu'il expose, mais la réalité, c'est la gloire qu'il recherche. La gloire, c'est Dieu même. La gloire, c'est la manifestation de Dieu. Certaines bénédictions, et quelquefois qu'on parle de bénédictions, peuvent être la manifestation dans votre vie d'être céleste des anges. Mais la gloire, quand on parle de la gloire, on n'a pas affaire à des anges. On a affaire à Dieu lui-même. C'est pourquoi Moïse, après avoir été utilisé puissamment, la Bible dit que c'était l'Éternel. Mais quand on regarde dans le Nouveau Testament, Dieu exprime que, en fait, Moïse était, toute cette puissance-là s'est manifestée par l'intervention d'un ange. C'est la raison pour laquelle Moïse, plus tard, va demander à Dieu, Seigneur, montre-moi ta gloire. Et Dieu va lui répondre, personne ne peut voir ma face et vivre. Car Dieu savait clairement que Moïse était en train de demander de le voir lui-même. Alléluia. Alors nous, dans le Nouveau Testament, Dieu nous donne accès à voir Dieu. Mais la vision dont Dieu nous parle n'est pas la vision avec nos yeux. Nous avons montré les dimanches derniers et le mardi dernier que nos yeux regardent, ils sont juste une fenêtre. Amen. En réalité, c'est l'Esprit qui est à l'intérieur de nous qui voit. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, si tu m'as vu, tu as vu le Père. Et les Écritures, la Bible dit, personne n'a jamais vu Dieu, mais le Dieu s'est fait connaître par le Christ. Et je pouvais dire, si tu m'as vu, tu as vu Dieu. Donc, nous sommes au moment où nous sommes en train de voir la gloire. Mais beaucoup parmi nous voient Jésus de manière charnelle. Ils voient le Seigneur avec la sagesse humaine, avec l'intelligence humaine. Et c'est cela que je veux que nous puissions saisir, la vision du ciel, la vision de Dieu. Amen. Pour entrer dans cette nouvelle dimension-là de la gloire. Et parce que qu'est-ce que la Bible dit ? Que le ciel, la vision de Dieu. Amen. Pour entrer dans cette nouvelle dimension-là de la gloire. Et parce que qu'est-ce que la Bible dit ? Que lorsque nous regardons le Seigneur, pas avec les yeux physiques, mais avec les yeux du cœur, quand on le regarde, quand on voit, on regarde qui il est, ce qui se passe, c'est que nous-mêmes, on est transformés en la même image. Amen. Parce que la Bible dit, nous sommes transformés en la même image. 2 Corinthiens 3, 18. Nous qui contemplons le Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Mais quelle est cette image à laquelle nous sommes transformés? C'est l'image de Jésus, n'est-ce pas? Est-ce qu'on me suit? C'est l'image de Jésus, non? Mais pourtant, la Bible dit que, initialement, lorsque nous avons été créés à l'image de Dieu. Jésus est Dieu. Il se trouve que, au fur et à mesure, avec le temps, l'homme a perdu cette image. L'esprit de l'homme a perdu cette image. Donc, Jésus-Christ revient pour restaurer cette image. Je vous ai expliqué la dernière fois que nous sommes des dieux. Je vous ai montré la dernière fois, et on va encore lire des passages tout à l'heure, qui dit que nous sommes des esprits. Nous ne sommes pas des êtres charnels. La chair, le corps qui est sur toi, n'est qu'une enveloppe. Ce n'est qu'une maison dans laquelle vit ton esprit. Si tu crois que tu es quelqu'un de charnel, si tu crois que tu es un homme physique, tu vas te juger par rapport à ton physique, par rapport à ce que tu vois, par rapport à ce que tu entends. Ce n'est pas vrai. Amen. Ça, nous l'avons expliqué précédemment. Alléluia. Alléluia. Bien vrai que dans ce que nous allons dire maintenant, on va revenir sur des points qui concernent cela. Et Dieu, pour révéler sa face, dans l'Ancien Testament, Dieu a voulu révéler ses différentes facettes à Israël. La première école de la gloire, Dieu s'est révélé à eux comme Jéhovah Rapha. C'est-à-dire Jéhovah Rapha, ça veut dire le Dieu qui restaure. Ça, c'est la première école de la gloire. Quand tu contemples Dieu comme étant Jéhovah Rapha, ça veut dire quand tu commences à l'admirer, ta vie est transformée. Toi-même, tu deviens un Jéhovah, un petit J, mais tu deviens un Jéhovah aussi Rapha. C'est ce que le Seigneur est en train de dire. Quand je contemple le Seigneur, contempler là, c'est écouter sa parole. Contempler, c'est recevoir ce qu'il dit. La Bible dit à ceux qui l'ont reçu, cette parole-là, elle a donné le pouvoir de devenir l'enfant de Dieu. Donc quand je contemple Jéhovah Rapha, moi-même je deviens source de guérison parce que je suis le fils de Dieu. Et en tant que fils de Dieu, je dois ressembler à mon père. Parce qu'un lion, le fils du lion, c'est un lion. Le fils du singe, c'est un singe. Donc le fils de Dieu, c'est un Dieu. Il n'est pas autre chose. Donc quand je le regarde, mais cette image, cette divinité-là que j'ai cru perdre par le péché. Mais quand je le contemple, moi-même, je deviens Jéhovah Rapha. Et la deuxième école de la gloire, Dieu veut que toi-même, tu deviens Jéhovah Jireh. Jéhovah, un petit J. Alléluia. Alléluia. Alors l'enseignement que vous allez avoir maintenant, il est celui-là par lequel vous allez entrer dans une dimension de Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh, ça veut dire le Dieu qui pourvoit. Quand on parle de pourvoir, on parle aussi de manière indirecte de manque. Ça veut dire de besoins à combler. Amen. L'homme a des besoins, mais c'est dans la dimension de Jéhovah Jireh qu'il a la réponse à tous ses besoins. Mariage, enfant, moyens financiers, promotion, tout ça, toutes ces choses sont incluses dans la révélation du Jéhovah Jireh. Il n'a pas dit celui qui pourvoit quoi, on dit celui qui pourvoit. Amen. Donc, c'est cette dimension-là dans laquelle je vais vous conduire. Et déjà, mon âme se réjouit, je suis dans la joie, parce que avant la fin de l'année, on aura embouteillage, cascade de miracles et de prodiges. Amen. Alléluia. Mon frère, je me suis en train d'expliquer que tu es un Dieu. Tu vois, et en tant que Dieu, tu crées. Et nous allons montrer clairement dans la parole de Dieu que ton avenir, tu le crées toi-même. Tu n'es pas quelqu'un, en tant que divinité, tu n'es pas quelqu'un qui est soumis aux circonstances. Les circonstances, tu les crées. Mais les gens ne savent pas que, consciemment ou inconsciemment, on crée toujours. Les succès et les réussites que vous avez eu dans votre vie sont des résultantes de cette foi-là. Alléluia. 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 Et tu peux y entrer. Il faut croire. Ce que je vais enseigner, ce que je vais vous dire, ce que je partagerai avec vous de la part du Seigneur, tu as l'opportunité donc de vérifier chaque verset, de comprendre, de méditer, de lire. Et je t'encourage même encore à reprendre tous ces coffrets et à les réécouter afin que la parole de Dieu puisse porter du fruit dans ta vie. Amen. C'est cette gloire-là que Dieu a voulu révéler à Israël lorsqu'ils traversaient le désert après leur première épreuve qui a constitué la première école de la gloire. Donc dans la deuxième épreuve, Dieu va les priver de nourriture. Mais Israël va avoir une pensée. Aujourd'hui, je ne parlerai pas beaucoup de cela, mais les autres fois, je vais revenir sur l'attitude d'Israël. Aujourd'hui, je vais parler de la foi. Comme j'ai dit, les cinq étapes, amen, pour une foi qui va déplacer les montagnes. Donc, Israël, au lieu de commencer à avoir des pensées par rapport à son espérance, par rapport à ce qu'Israël veut atteindre, Israël va commencer à penser à son passé. La Bible dit qu'Israël va commencer à dire à Moïse, mais pourquoi on n'est pas mort en Égypte? En Égypte, là-bas, on avait à manger, on avait de la viande, on avait ceci. Leur pensée va changer. La Bible dit, c'est vrai, ils ne connaissaient pas l'Éternel. À cause de Moïse, quand Moïse va prier, Dieu va leur donner du pain. Mais on va lire dans le Nouveau Testament, dans le livre de Jean, chapitre 6. Lisez avec moi, à partir du verset 33. Jésus dit cette parole, ces paroles. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Il lui dit, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Verset 49, Jésus dit de Jean chapitre 6, vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Alléluia. Alors Dieu nous montre clairement que Israël, dans le désert, la manne qu'ils ont mangée n'était pas le pain que Dieu aurait voulu leur donner. Mais le pain que Jésus donne, qui est Christ lui-même, Jéhovah Jireh. Quand vous le consommez, il dit, tu ne connaîtras plus la faim, tu ne te connaîtras plus la soif. Pourquoi? Parce que constamment, dans la dimension de Jéhovah Jireh, tu es pourvu. Donc tu n'as pas faim. Il dit, si quelqu'un me mange, je suis le pain qui vient du ciel. Il dit, vos pères ont mangé du pain de la manne, mais ils ont eu toujours faim et ils ont fini par mourir. Mais moi, si vous me mangez, vous n'aurez plus faim. Vous n'aurez plus soif. C'est-à-dire, le manque là va disparaître. Parce que tu vis constamment dans la dimension de Jireh, de celui qui pourvoit. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors comment est-ce qu'on peut rentrer dans cette dimension? Comment est-ce que je peux voir être comblé constamment de tout manque? Autrement dit, comment est-ce que je peux rentrer dans cette phase divine de ma personne qui est Jéhovah Jireh à l'image de mon Père? Amen. À l'image de mon Créateur. Alléluia. Pour y entrer, donc Jéhovah Jireh, c'est aussi la gloire de Dieu. Amen. C'est une dimension, c'est une facette de la gloire de Dieu. Pour entrer dans cette gloire, la phrase est très simple, se trouve dans Jean chapitre 11, verset 40. Jésus dit ceci, Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Donc, la dimension du Jéhovah Jireh vient du croire ou de la foi. Dis avec moi la foi. La foi. La foi. Ah, je ne vous entends pas bien. La foi. Donc, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ça veut dire quoi? Que la foi nous donne accès à la gloire de Dieu. Et regardez ce que Jésus-Christ a dit encore. C'est dans cette dimension-là que Dieu va nous conduire. Amen. Ah, j'aime ça. Jean 14, verset 12. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Qu'est-ce que j'ai? Tout ce que Christ a fait. La Bible dit que quand tu as la foi en Jésus, quand tu crois en lui, tu deviens capable de reproduire exactement les mêmes choses. C'est-à-dire, il n'y a pas à manger à la maison. Tu dis à ta femme, va au marché. Elle arrive au marché, les commerçants s'assemblent. Madame, quand on a vu votre visage, on a voulu donner le pain et les poissons. C'est-à-dire, quand tu en Jéhovah Jireh là, tu es serein. En fait, tu ne dis pas que tu n'as pas. Parce que c'est pas que tu as une réserve. Jéhovah Jireh, ce n'est pas une réserve. C'est ce que je suis en train d'expliquer. Il dit, mais regardez, est-ce que j'ai fait des comptes en banque? Non. À tout moment, je suis là, on dit payer les impôts. J'appelle un poisson. Tu avais avalé une pièce d'argent, ça faisait des années. Combien de quelques temps? Amen. Pierre, tu veux du poisson? Tu n'as pas pêché toute la nuit? Jéhovah Jireh rentre en action. Poisson, montez dans le filet. C'est-à-dire, ça, c'est Jéhovah Jireh, tu es relax. Donc, Jésus ne peut pas dire j'ai faim. Il ne peut pas dire j'ai soif. Amen. Parce que la dimension de Jéhovah Jireh, c'est comme si elle vous montre constamment où vous allez être nourri, où vous allez être pourvu, où Dieu va pourvoir à tous vos besoins. Amen. Alléluia. C'est pourquoi Christ pouvait dire, celui qui croit en moi, celui qui mange ce pain qui vient du ciel, n'aura plus faim, n'aura plus soif. Amen. Donc, le secret, c'est la foi. Il le dit ici, si vous croyez, ce que j'ai fait, vous allez le faire. Est-ce qu'on croit en ce passage? Est-ce qu'on croit? Bon, j'aime bien vous poser la question après. Je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Amen. Alléluia. Mes amis, nous nous apprêtons à rentrer dans le monde de l'impossible. Dieu s'apprête à faire avec toi des choses... Alléluia. Alléluia. Jésus dit, Dans Matthieu chapitre 17, verset 20. Diapo 18. Il dit, soyons d'accord, hein, c'est du français, ce n'est pas chinois. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Comme ça va. Je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne. Mes amis, là, on n'est pas en train de demander à Jésus, Jésus, est-ce que tu veux que la montagne se déplace ou bien tu veux pas que la montagne se déplace? Ce n'est pas une affaire de volonté de Dieu. Les apôtres venaient d'avoir un problème. Ils avaient l'intention de chasser un démon. Ils ont prononcé la parole. Sors au nom de Jésus. Mais l'esprit n'est pas sorti. Ils sont venus voir Jésus. Jésus leur a dit, Jésus leur a fait le reproche. Donc, Dieu dans le ciel voulait que les démons partent. Mais eux sur la terre n'ont pas pu saisir l'autorité pour chasser les démons. Ce n'était pas une affaire de plan de Dieu. Parce que souvent quand on flash, on dit, mon frère, c'est le Seigneur. Il ne voulait pas que j'obtienne ceci. Non. Ce que je t'ai dit là, arrêtons de limiter Dieu. Parce que tant que tu vas commencer à penser que c'est le Seigneur qui n'a pas voulu, c'est le Seigneur qui n'a pas voulu, tu vas toujours trouver des excuses pour le non-exaucement à tes prières. Et puis, tu vas toujours trouver des excuses pour ne pas vivre Jéhovah Jireh. Le français dont il est question ici est très clair et précis. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici, elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mes amis, c'est le français. Rien. Dis avec moi, rien.
Rien.
Rien. Bon, dites-moi en vérité, rien ça veut dire quoi? Vous savez que quand on a envie de lire ce passage, on a envie de dire, Seigneur, fais attention à ce que tu dis. Réduis un peu ta parole. Parce que quand tu dis rien, ou bien dis-moi, tant que je prierai dans le cadre de ta volonté, tout ça, donne-moi des limites. Il leur dit, je vous le dis, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, rien ne vous serait impossible. Là-bas, il dit, mets la balle dans ton camp. On te provoque avec un mot, on dit, tu peux tout. Quand on dit rien, rien, est-ce que c'est, rien, ça veut dire rien, non? Bon, essaie d'imaginer quelque chose d'impossible. Quelqu'un peut dire, hein, quelqu'un peut avoir un rêve du genre, il a toujours rêvé d'être astronaute, mais dans la pratique, il sait qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de fusée. Donc, comment lui va aller? Mais Dieu dit, si tu crois, tu vas te trouver dans une fusée un jour et tu vas aller dans l'espace. Rien ne te serait impossible. Rien. Vraiment. Non, il ne faut pas vite applaudir, il faut penser à rien. Maintenant, commence à essayer d'imaginer ce que tu veux limiter là. Et puis quand tu veux voir la limite, on dit rien. Mes amis, la Bible dit, quand Dieu a fini d'écrire ça, il dit, je vous menace. N'ajoutez rien à la parole, ne retranchez rien. Si quelqu'un retranche un seul mot, moi Dieu, je vais le frapper. Donc, il ne faut pas retrancher ce mot rien là dans ton cœur. Parce que tu peux dire de ta bouche rien, mais ton cœur freine. Attention, ce n'est pas rien. Dieu dit, tu es en train d'enlever un mot. Je sais ce que j'ai dit. Je ne suis pas un homme pour me tromper. Je ne mens pas. Quand je dis rien, c'est rien. Rien ne t'est impossible. Ça veut dire rien ne t'est impossible. Ça ne veut pas dire autre chose que ce que tu lis. Alléluia. Amen. Amen. Vous savez qu'on va expliquer ça. Il y en a qui vont vouloir trop faire de la théologie. Expliquer, vous savez, Jésus a dit ça dans un contexte. C'est ce qui fait douter les gens. Amen. Matthieu chapitre 21, verset 21. Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi, que vous ne doutez point, non seulement vous ferez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi dans la prière, vous le recevrez. Dis avec moi tout. Ça c'est encore du français. Tout. Tout ce que je vais demander. Donc commence à rêver, on dit tout. Tout. S'il te plaît, n'enlève pas le mot tout là dans ton cœur, s'il te plaît. Ne retranche rien, n'ajoute rien. La Bible est la Bible. Dieu n'a pas besoin de toi pour le défendre ni pour le soutenir. Dieu n'a pas besoin de ton aide pour que tu viennes lui dire, non Seigneur, les gens ont écrit, ils étaient un peu trop prétentieux. En réalité, tu aurais voulu nous dire que dans telle ou telle condition, quand tu parles, quand Dieu dit, tais-toi, on ne t'a rien demandé. Lis ce qui est écrit, tu n'ajoutes rien, tu ne retranches rien. Tout ce que vous demanderez avec foi dans la prière, vous le recevrez. Tout. Alors la question maintenant à se poser, ce n'est pas de savoir si le verset est juste, c'est de savoir pourquoi nous, Nous n'arrivons pas à entrer dans la dimension de ce qui est le tout. Pourquoi nous n'arrivons pas à atteindre des choses qui sont impossibles? C'est là le problème. Le problème, ce n'est pas le verset. Le problème, ce n'est pas ce qui est écrit. Le problème, c'est nous. Parce que la parole de Dieu est vraie. Alléluia. Alléluia. Alors, c'est quoi la foi? Il dit, si vous demandez avec foi, vous allez l'obtenir. Donc, la foi est celle-là qui nous amène à entrer dans la gloire de Dieu. Parce qu'il dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors, comment fonctionne cette foi? Oh Seigneur, tu me donnes la faveur d'entrer dans le monde impossible. Je peux tout. Je puis tout. Et c'est merveilleux. Alléluia. Je puis tout. Commence à rêver, mon frère. Maintenant, qu'est-ce que c'est que la foi? Comment est-ce qu'elle fonctionne? Pour mieux comprendre cela, et vous allez voir que tout est conforme dans la parole, c'est clair. Mais il a fallu, je savais ce sujet, j'avais étudié ce dont je veux parler avec vous. Et puis ces derniers temps, comme on allait entrer dans l'école de Jéhovah Jiré, Dieu a permis à ce que je tombe sur un livre, et puis sur des amis, on a commencé à parler. Et Dieu a rouvert mes yeux sur les choses qui m'avaient enseigné en ce qui concerne la foi. Et j'ai compris que c'est ce que l'Éternel voulait que je puisse vous communiquer, parce que c'est clair dans sa parole. Amen. Regardez ça. Hébreux chapitre 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. J'ai souligné 5 choses. Ne collez pas. Voilà, vous voyez. Or, la foi est une ferme. Donc, la fermeté, dis avec moi la fermeté. L'assurance. Il dit des choses qu'on espère. Dis avec moi espérance. Et une démonstration. Dis avec moi démonstration. De celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Donc, j'ai souligné en tout 5 choses. Je crois qu'ils sont les mots-clés de ce verset et qui définissent la foi et qui traduisent en même temps les 5 étapes par lesquelles nous devons passer pour avoir une foi qui saisit l'impossible. Tu vas et tu peux entrer dans l'impossible. Tu peux vivre. Bientôt, tu vas commencer à vivre tes rêves et tes visions les plus folles. Alléluia. Mais il faut que tu penses en bien. Amen. C'est pourquoi il ne faut pas que tu rates l'enseignement du mardi. Parce que même les païens, quand ils appliquent ce principe-là, ça fonctionne. Ce n'est pas lié à la chrétienté. C'est une loi universelle. Alléluia. Voilà, seulement les enfants de Dieu ne savent pas en profiter. Ce sont les païens. Dieu a mis ça pour nous, mais ce sont les païens qui prennent et ils construisent de grandes choses. Et ils vont sur la lune. Ils accomplissent leurs rêves. Savez-vous que, comment il s'appelle celui qui a marché sur la lune là? Armstrong quoi? Son prénom c'est quoi? Neil Armstrong. Savez-vous que lorsqu'il était petit, pendant qu'il n'y avait aucune fusée qui avait été fabriquée, il stimulait dans son enfance une fusée qui s'envolait. Il était arrêté et sa maman ne sait pas comment il s'amusait. Quand il s'amusait, ses amis, il est là. Et puis il dit, lui il va aller sur la lune. Il va aller sur la lune. Il va aller sur la lune. Il rêvait à la lune. On dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Parce que la lune l'intriguait. Et lui il a décidé d'y aller. Ce qui va se produire, c'est que cet homme-là, qu'il soit chrétien ou pas, il a appliqué un principe, le principe de la foi. Et je vais vous expliquer le détail. Ce qui s'est passé, c'est que parce qu'il a cru, lui, il n'est pas fabricant. Mais subitement, dans l'univers entier, dans la terre entière, les gens ont commencé à avoir l'intelligence de fabriquer une fusée. Les gens ont fait tout. Et quand il fallait choisir quelqu'un pour aller marcher, c'était lui. Ils ont fabriqué sans d'abord le choisir. On ne l'a pas associé au projet initialement. Mais ce qu'il rêvait quand il était petit a fait en sorte que les circonstances de l'époque, si même Dieu avait prévu qu'on marche sur la lune des siècles après, excusez-moi, parce que après qu'il ait marché sur la lune, vous savez que ça fait de très longues années que l'homme n'est plus allé sur la lune. Parce que les gens ont trouvé que c'était du gaspillage financier. Ils ont vu que la lune c'était une grosse boule de poussière. Donc depuis là, les gens placent les satellites seulement, mais on ne va plus sur la lune. Il y a très longtemps. Donc, les gens sont juste allés sur la lune pour exaucer la foi de ce gars. Ils ont créé. C'est-à-dire, lui, il était assis, il a fait son rêve. Il a appliqué la loi de la foi. C'est pas... comment le miracle va s'accomplir, ce n'est pas votre problème. Mais Jéhovah Jireh, c'est une dimension qui est naturelle chez les hommes. Parce que les hommes sont d'origine divine. Ce que Dieu pense, Dieu l'obtient. Ce qu'un homme naturellement pense, il l'obtient. Il y a tout un mécanisme. Ça fonctionne. Les gens l'ont eu, même étant païens, même souvent, même les mauvais, ils arrivent à atteindre ça. Si vous voulez dormir et ne rien prendre sur la terre, les gens sont là, lui il croit même en Dieu. Mais il a commencé à rêver, il a appliqué la foi, il a commencé à penser, il y a cru. Les inventeurs se sont nés, en même temps ils ont commencé à avoir des rémas, des révélations. Comment fabriquer une fusée, comment fabriquer une fusée. On dit bon, on va aller sur la lune. Et celui qui est parti, il a marché sur sa lune, il est revenu. Après on dit on ne va plus encore. Et c'est fini. Alléluia. La foi crée les circonstances. C'est pourquoi l'appel, il dit, si tu as la foi, tu vas déplacer une montagne. La foi, parce que quand on parle d'une montagne, vous voyez ce que c'est, non? Hein? La montagne parle de la chose qui est la plus difficile à déplacer sur terre. On ne déplace pas une montagne. En fait, Jésus a voulu jusqu'à aller là pour nous faire comprendre ce que c'est que la puissance de la foi. Elle n'a pas de limite. Elle n'est pas limitée. Donc, il ne faut pas la limiter. Autant tu vas la saisir et tu vas en jouir, autant tu seras capable d'entrer dans une dimension spirituelle extraordinaire. Mais il ne faut pas prendre ça pour faire n'importe quoi. Amen. Alléluia. Donc, voici les cinq étapes qui vont nous aider à manifester la foi. Je résume donc les cinq étapes. Voilà l'ordre que je vais adopter. Savoir que le visible vient de l'invisible. Premier principe que je vais aborder, première étape. Deuxième étape, avoir de l'espérance. Troisième étape, assurer, avoir de l'assurance par sa parole, par la parole de Dieu. Quatrième étape, être ferme dans son espérance, donc l'espérance, l'assurance, et la quatrième, pardon, c'est la fermeté. Cinquième étape, démontrer, donc la démonstration. Il dit la foi, c'est la ferme assurance de ce qu'on espère, la démonstration de ce qu'on n'a pas encore vu. Amen. Donc, si chacune de ces étapes-là manque à votre croyance, vous n'avez pas la foi. Si tu commences à prier que tu n'as pas l'espérance, ton sujet ne sera pas exaucé. Parce que la Bible dit que celui qui doute ne s'imagine pas qu'il obtiendra la moindre chose du Seigneur. Donc, le doute vous empêche d'obtenir. Et comment est-ce qu'on doute? On doute quand il me manque un de ces cinq éléments. Est-ce qu'on peut revenir à Hébreux 11.1? Si je n'ai pas l'assurance, la ferme assurance, je ne vais pas être exaucé. Si je n'ai pas de l'espérance, je ne serai pas non plus exaucé. Si je ne démontre pas, je ne passe pas à la démonstration, je ne serai pas exaucé. Donc ces cinq éléments doivent rentrer en ligne de compte. Et vous allez voir qu'ils ne sont pas du tout compliqués à manifester. Alléluia. Alléluia. Donc c'est pas une affaire de te concentrer, tout ça. Faut pas te concentrer, ça sera facile. Amen. Juste des choses à savoir et auxquelles il faut croire. Et puis ça fonctionne, ça marche. Moi, je sais que c'est la foi qui m'a mené jusqu'à ce niveau. Et je sais que par la foi, j'irai encore beaucoup plus loin. Alléluia. J'en suis convaincu. Quand vous savez ce que c'est que la foi, vous n'avez plus envie d'être... Tu n'as pas besoin d'être jaloux. Bah, toi, mais tu peux tout obtenir. Donc, arrête d'être aigri. Parce que le monsieur, consciemment ou inconsciemment, c'est une foi qu'il a manifestée pour obtenir ce qu'il a là. La première des choses qu'il faut savoir, il faut savoir que le visible vient de l'invisible. Dis avec moi, le visible vient de l'invisible. Amen. Hébreux chapitre 11, verset 3 dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit, ça veut dire ce qui est visible, n'a pas été, pardon, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Amen. Dieu dit, tout ce qu'on voit, il faut savoir cela, tout ce que tu vois de manière physique, tout ce que tu perçois, tout ce que tes cinq sens peuvent toucher, ne viennent pas, n'ont pas été initiés à partir de ce que tu as vu. En réalité, ils ont commencé dans le monde invisible. Tout se gère dans le monde invisible. Et quand on parlait des cinq pierres de David dans le dernier enseignement, je vous ai dit que même votre attitude, même votre comportement, parce que votre comportement est visible, c'est ce qu'on voit de vous, n'est-ce pas, est une conséquence ou est une résultante de la foi ou bien d'une certaine penser d'une chose invisible, quelque chose qui s'est produit dans l'invisible, qui vous donne aujourd'hui d'avoir une telle attitude. Amen. Ça, c'est ce dont je parle le mardi soir au mardi des champions, en ce qui concerne votre véritable identité. Parce que c'est très important dans la dimension du Jéhovah Jireh. Amen. Alléluia. Il dit, En sorte que tout ce qu'on voit ne vient pas de choses visibles. Autrement dit, tout ce qu'on voit vient de choses invisibles. Tout vient de l'invisible. C'est dans l'invisible que tout se gère, mon frère. Alléluia. Donc si tu vois devant toi une montagne, ce que je suis en train d'apprendre, avec ton identité, avec la foi, tu rentres dans l'invisible et puis tu déplaces la montagne. Et sur la terre, tout va se passer. Le vent m'a soufflé, en tout cas, peut-être, c'est pas, peut-être quelqu'un va venir. J'étais une bombe atomique sur cette montagne-là, mais la montagne-là va disparaître parce que toi, tu as cru qu'elle ne devait plus être là. Le comment, ce n'est pas trop votre problème. Le problème des gens, c'est que quand ils commencent à prier, ils pensent trop à comment tu vas faire ça. Si vous pensez à comment, c'est un manque de foi. C'est pas, parce que qui t'a demandé? On t'a dit, pourquoi tu veux savoir même? Quoi ton problème? Il n'a pas dit, si tu crois et que tu arrives à discerner comment Dieu va t'exaucer, alors tu verras cela s'accomplir. On ne veut pas ça. On ne veut même pas que tu saches comment. Laisse le comment là. On dit, crois à l'impossible. Comment ça va arriver à toi, ce n'est pas ton problème. Alléluia. Parce que quand on commence à regarder, comment Dieu va faire? Comment est-ce qu'il peut déplacer? Quand on commence à douter. Il ne nous a pas demandé de savoir comment. Mais il faut comprendre une chose, c'est que tout ce qui est visible, tout ce qui existe sur la terre vient de l'invisible. Amen. Et ça vient de l'invisible comment? Les choses quittent l'invisible pour se manifester dans l'invisible à cause d'une chose, à cause de la parole. Dis avec moi la parole. C'est pourquoi Jésus pouvait dire ceci. Toutes choses ont été faites par elle. Jean chapitre 1 au verset 3. Toutes choses ont été faites par elle. Elle, c'est la parole. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Autrement dit, tout ce qui existe vient de la parole. La parole, c'est quelque chose d'invisible. Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. Toi aussi, tu es Dieu. Tu peux dire que la lumière soit, la lumière... Amen. Si tu dis cela, ce n'est pas vrai. Alléluia. Quand on va arriver dans la partie démonstration, c'est quoi la démonstration là? Comment je pense à la... Enfin, comment je pense à l'enseignement, je danse déjà. Ça me fait tellement de bien moi-même. Amen. Ah, tu m'as dit, c'est trop dangereux, frère. Je prends les trucs graves. Avant, là, ça marchait, mais je ne comprenais pas trop le mécanisme. Maintenant, je sais comment ça fonctionne. Donc, j'applique ça, frère. Et ça fonctionne. Amen. Donc, tout ce qui existe a été créé par la parole. Notez ça, la parole. Maintenant, la parole dont il est question, là. Je vous ai dit la dernière fois que nous sommes un être spirituel. Et en réalité, nos cinq sens ne sont que des fenêtres ou des canaux par lesquels notre esprit s'exprime. Les yeux sont une fenêtre par laquelle mon esprit voit. C'est ce que je vous ai dit. Donc, on a dit que tu peux te trouver devant quelqu'un pendant que tes yeux le regardent. Et parce que ton esprit est ailleurs, tu ne le vois pas. Donc, il vient, il te salue, tes yeux le regardent. Et puis un coup, il dit, Bernard, hey, Franck, c'est toi qui es là. Ses yeux étaient sur toi, mais son esprit était ailleurs. Donc il ne te voyait pas. Les yeux regardent, mais les yeux ne voient pas. Les oreilles entendent, mais elles n'écoutent pas. Quelqu'un peut parler, tes oreilles vont entendre le son. Mais si ton esprit est à la maison en ce moment précis où il te dit le son, ce qu'il a dit, tu ne vas pas comprendre. Mais tes oreilles ont entendu. Tout simplement parce que ta vraie personne, ce ne sont pas tes oreilles, ni tes yeux, ni ton nez, ni ta bouche, mais c'est quelqu'un qui est à l'intérieur de toi. C'est pas quelqu'un qui est à l'intérieur. C'est toi-même qui es à l'intérieur de ce corps. Alléluia. Alléluia. Et la parole dont il est question, ce n'est pas... C'est vrai, c'est la parole des verbes. Mais la parole qui sort de notre bouche, qui est prononcée, en fait, elle vient d'une autre parole qui est beaucoup plus forte. La pensée. Dis avec moi, la pensée. La pensée. La pensée est une parole. Quand je parle de pensée, je ne parle pas d'idée rapide qui vient sionner ton esprit. Non. Tu penses un matin, une idée te traverse. C'est pas ça qu'on appelle pensée. La pensée, c'est une idée en esprit, c'est vrai, mais qui est soutenue. Tu réfléchis au sujet, tu cogites là-dessus. C'est ce qu'on appelle pensée. Alléluia. Et cette pensée-là est une parole. Elle est une parole qui se fait entendre dans le monde invisible, clairement. De sorte que vous allez comprendre dans la suite que ce que Dieu exauce, ce n'est pas la parole de vos lèvres, mais c'est plutôt Quand il dit la parole, c'est plutôt la parole en tant que pensée. Mais il est bien que tu prononces dans le monde physique. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Ecclésiaste chapitre 10, verset 20, démontre cela. Il dit, ne maudis pas le roi, même dans ta pensée. Et ne maudis pas le riche dans la chambre où tu couches, car l'oiseau du ciel emporterait ta voix, l'animal ailé publierait tes paroles. Il dit quoi? Que même si tu penses à quelque chose contre une personne, ça a de l'effet. Ici, il parle du roi. Il dit, si tu as pensé mal du roi, ça va arriver à lui, d'une façon ou d'une autre. Mais quand je dis arriver à lui, là, c'est pas que... Parce qu'on dit, l'oiseau va venir prendre. Est-ce qu'un oiseau peut venir prendre une pensée? Non. Donc, c'est une métaphore. Alléluia. Alléluia. C'est une image. Mais Dieu est en train d'expliquer que tes pensées, ce qu'il est en train de dire, tes pensées sont des paroles qui peuvent être, qui seront publiées. Il dit, l'animal, elle est... Il dit, l'oiseau du ciel emporterait ta voix. Donc, toi, tu n'as pas parlé. Tu as juste pensé et puis on dit ta voix. Tu as juste pensé, mais on parle de ta voix. Et on parle de paroles qui seront publiées. Ce que tu penses, ce à quoi tu penses, est une parole. C'est pourquoi il y a certaines fois, tu es exaucé sans prière. C'est-à-dire que tu as assez comme ça, puis tu penses. Et puis ça vient. C'est pourquoi il dit, il est capable de faire infiniment au-delà de ce que nous pouvons imaginer ou penser. Parce que la vraie clé, c'est la pensée. Ce n'est pas ce que tu dis. C'est pourquoi il dit, on a assis ce matin, quelquefois, on prie, on dit, je confesse. On dit, confesse que... Cette année, tu possèdes ta victoire. Je possède, je possède, je possède. L'année finit jusqu'à c'est l'année même qui te possède. Frère, c'est pas ce que tu dis. Si ce à quoi tu penses est en contradiction avec ce qui sort de ta bouche, la Bible t'appelle hypocrite. L'univers ne comprend plus. On dit, mais tu racontes quoi là? Tu penses autre chose. Alléluia. La pensée est une voix. La pensée est une parole. Et c'est cette parole-là qui est exaucé. Quand on va arriver plus loin, vous allez voir que quand tu pries pour une chose, si tu penses plus au contraire, c'est le contraire que tu vas obtenir. Si par exemple tu pries pour que ton foyer soit stable, mais qu'en priant tu as plus peur parce que tu as vu ta tante, on l'a divorcée, l'autre, on l'a divorcée, tu as vu un drame dans ta famille. Donc pendant que tu es dans ton foyer là, tu pries, garde mon foyer, mais tu médites plus. En fait, ta prière là, tu penses plus à ta peur de perdre ton mari. Mais c'est ce qui va arriver. Parce que ce n'est pas ta bouche là qu'on écoute. C'est ta pensée. Comme tu es en train de penser, on va me laisser, on va me divorcer, on va me divorcer. C'est ce qui arrive. Ce qui est exaucé, comprenez-moi littéralement, ce sont vos pensées dominantes. C'est ce que Dieu écoute. En fait, c'est ce qui est... C'est pourquoi Jean pouvait dire, dans le livre de Jean, chapitre 3, il dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Tout simplement parce qu'il a focalisé son esprit sur ses peurs. On ne souhaite pas être détruit. Mais si, par exemple, pendant que je prie pour me marier, j'ai, dans mon esprit, je cogite plus sur l'état des femmes célibataires et je pense plus au célibat, ce que je vais obtenir, ce n'est pas le mariage. C'est ce que je ne veux pas, là. Que je vais obtenir. C'est-à-dire, comme je pense, dans ma famille, même les gens ne se sont pas mariés. Hein? Dans ma famille, il y a des problèmes. Donc, au lieu de penser à tes espérances, tu penses à ce que tu fuis. Parce que tu focalises ta pensée sur ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Est-ce que quelqu'un veut me suivre? Alléluia! Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'opposition, qu'il n'y a pas d'obstacle. Mais les gens qui réussissent, ils sont conscients de l'obstacle, mais c'est bizarre, ils pensent plus à leurs rêves qu'à leurs cauchemars. Voilà, ça fait une grande différence. Il y en a qui prient pour le même sujet, mais ils pensent plus, ils cogitent plus sur ce qu'ils craignent que sur leurs rêves. Amen. Quand Pierre est en train de marcher sur l'eau pour rejoindre Jésus, Jésus dit, viens. Pierre n'a rien dit. Il a commencé à venir. Quand le vent a commencé à souffler, que le vent l'a tapé, il n'a rien dit. Hein? Mais est-ce qu'il n'avait pas la foi au départ? Est-ce que ce n'est pas par cette fois qu'il a commencé à marcher sur les eaux? C'est déjà extraordinaire. Mais à un moment donné, le vent souffle, Pierre ne dit rien. Mais subitement, en fait, sa pensée a changé. Quand le vent a commencé à souffler, Pierre, dans son cœur, a eu peur. La peur, c'est une forme de pensée, c'est une pensée. Amen. Il a commencé à penser, mais le vent souffle. Je suis sur la mer. Donc, au lieu de penser à son espérance, il a commencé à penser, je ne veux pas me noyer. Il y a une différence entre je veux marcher pour atteindre Jésus et puis je ne veux pas me noyer. Quand tu commences à penser à je ne veux pas me noyer et que tu penses plus à je ne veux pas me noyer, dans le monde spirituel, ce que tu prononces, il n'y a pas je ne veux pas là-bas. Là-bas, il y a noyer, 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 noyade. On entend noyade, on ne connaît pas je ne veux pas. On entend noyade, noyade, noyade. Je ne veux pas là, on laisse ça de côté. On entend noyade, noyade. Et la noyade arrive. Car en réalité, tu ne pensais pas, on ne pense pas, le mot je ne veux pas, on ne pense pas à ça. On pense plus à, je pense plus à la noyade. C'est quoi? Le vent souffle sur moi. Et si je me noyais maintenant? Et si mon pied coule? Et si, donc, il pense tellement à la noyade. Donc, il n'a rien dit. Il n'a pas dit à Jésus, je doute. Pierre marchait seulement. Le vent l'a soufflé, il a regardé l'eau. Personne ne sait ce qui s'est passé dans sa tête. Mais sa tête a changé d'idée. Au lieu de regarder son espérance, il a regardé ce qu'il craignait. Sa pensée a changé, il s'est mis à couler. Jésus arrive vers lui, il dit, pourquoi tu doutais? On n'a rien compris. Le monsieur avait cru au début, il a commencé à marcher. Sa tête a changé en route. Il n'a rien dit, ce n'est pas une parole que vous prononcez. C'est une parole qui vient de votre pensée, qui est envoyée dans l'univers pour dire noyer, noyer, noyer. Et en même temps, là, Dieu exauce l'eau. Il dit, l'eau, il faut qu'il se noie. Maintenant là, il faut qu'il se noie. Il a prié pour la noyade. Et puis Pierre s'enfonce. Il dit, qu'est-ce qui se passe? On dit, pourquoi tu as eu peur? Tu as commencé à trop regarder l'eau. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia! Ah, mes amis, quand on comprend ça, ça fait beaucoup de différence dans la manifestation de la foi. Amen. Alléluia. Donc, c'est important. Et c'est ce qu'il explique. Il dit, Saint-Esprit, le Seigneur dit, il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, ni de secret qui ne doit être connu. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu à la lumière. Et ce que vous aurez dit à l'oreille, dans les chambres, sera prêché sur les toits. Il dit, ce que tu penses à l'intérieur de toi sera proclamé. Il n'y a rien de caché. Amen. Pour dire encore une fois de plus, pour corroborer le fait que nos pensées sont des paroles et elles influencent toujours, quelle que soit la zone la plus secrète où nous pensons la prononcer. Amen. Donc, Job 3, 25. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. C'est pourquoi l'Éternel peut dire, tellement la pensée est forte, tellement la pensée est créatrice. Dieu peut dire, Matthieu chapitre 5, verset 28, mais je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Mes amis, le verset ne dit pas quiconque regarde une femme commettra l'adultère. On dit il l'a déjà commis. Pourquoi? Tu n'as rien fait. Tu n'as même pas sauté sur la dame là. Ou bien la dame n'a pas sauté sur le monsieur. On dit, quand tu commences à penser, à regarder, à envier, à vouloir, la pensée a fait que c'est arrivé. L'adultère est consommé. Quand tu vas arriver au ciel, on va te présenter. Adultère. Tu dis, moi, quand? Seigneur, jamais. C'est pourquoi je vous ai dit, arrêtez de vous juger par vos cinq sens. Dieu, si toi tu te juges par tes cinq sens, Dieu ne te juge pas avec tes cinq sens. Ce n'est pas parce que tu n'as pas dormi dans le lit de cette personne-là qui a pas adultère. Le gars à qui tu penses là, c'est un esprit. Toi aussi tu es un esprit. En esprit, la chose s'est passée, c'est validé. C'est péché. Réponds-toi. Alléluia. Et ce qui va se produire, c'est que, comme la pensée même, elle est créatrice, ce qui va se passer, c'est que quand tu commences à penser comme ça, dans la vie pratique, tu risques de commettre même adultère. Peut-être pas avec la personne, parce qu'elle va résister à ta pensée mauvaise là. Dans le nom de Jésus, si tu penses comme ça de quelqu'un, c'est brisé. Donc, je prie que la personne à qui tu penses la résiste fermement. Mais ce qui va se produire, c'est que, même si ce n'est pas avec elle physiquement, mais dans la pratique, ce à quoi tu penses va t'arriver, ce que tu penses va t'arriver. Tout est créé dans l'invisible. Tout. Il n'y a rien de ce qui est visible qui ne vient seul. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Ça, c'est le premier élément. Si vous savez ces choses, frère, vous êtes heureux. Si vous comprenez pleinement que vous êtes des hommes spirituels, que tout se passe en esprit, et que dans l'esprit, vous pouvez rectifier. Il n'y a aucune situation qui soit difficile. Quand David regarde Goliath, les gens voient un homme musclé par rapport à leurs cinq sens. David voit un petit gars incirconcis. Il va le frapper sérieusement. Vous comprenez? Ça fait une différence. Qu'est-ce que vous voyez? Voyez-vous ce que vos cinq sens vous montrent ou voyez-vous ce que l'esprit vous montre? Ce qui se passe dans le monde spirituel. C'est ça qui fait la différence. Alléluia. Et le deuxième élément, on va s'arrêter là-dessus pour terminer notre culte. Alléluia. Le deuxième élément, la deuxième étape, après avoir compris, saisi que je ne suis pas un être charnel, je suis spirituel et que tout se passe dans le monde spirituel, je saisis la deuxième chose, c'est l'espérance. Dis avec moi, espérance. Donc, la foi est la ferme assurance de ce qu'on espère. C'est quoi une espérance? C'est quoi l'espérance? Hein? Bon, j'ai marqué une division. C'est une pensée ou un sentiment qui amène à croire à l'éventualité de l'accomplissement de ses souhaits. C'est-à-dire, quand l'espérance là, je crois que, ou bien j'espère, je souhaite. En fait, c'est là que je parle du souhait, l'espérance. L'espérance traduit un rêve. Quand on parle d'espérance, on parle aussi de la pensée. On est toujours dans le domaine de l'esprit. On n'est pas dans le domaine du matériel. Mais Dieu dit que la foi est la ferme assurance de ce qu'on espère. Autrement dit, si vous priez sans espoir, vous n'avez pas la foi et vous ne serez pas exaucé. Beaucoup de gens prient, mais ils n'ont aucune espérance. Ça veut dire quoi? L'espérance, c'est d'abord un rêve. C'est aussi un rêve. C'est un souhait. C'est un rêve. Je donne un exemple. Une femme prie pour que son mari se convertisse. Ou pour qu'il change. Parce qu'il a un comportement qui n'est pas bien. Mais si tu pries, tu peux prier dans tes lèvres pour le sujet. Ribo, bo, bo, bo. Oh, que son cœur s'incline. Que son cœur s'incline. Ça, tu peux ne pas être exaucé. Même si tu pries 40 ans pour ça. Parce que tu n'as pas la foi. Pourquoi tu n'as pas la foi? Parce qu'à un moment, parce que tu n'arrives pas à espérer. L'espérance, c'est quoi? C'est que dans ton esprit, il faut que tu arrives à voir ton mari transformé. Si je prie pour que quelque chose change et que je ne rêve pas, je ne vois pas le changement arriver, je ne le verrai pas s'accomplir. C'est pourquoi il dit, si tu demandes quelque chose à Dieu, que tu crois que tu l'as reçu, pas que tu vas le recevoir. Il dit, si tu demandes une chose à Dieu que je crois que j'ai reçu, je vais voir ça s'accomplir. Pas que je vais recevoir. Amen. Vous devez, la foi vient de l'espérance. Il faut espérer. C'est-à-dire, pendant que je me mets à prier pour que, pour avoir ce boulot, je dois commencer à rêver au travail. Tu vois? Pendant que je prie pour trouver du travail, si dans mon cœur, dans ma pensée, je n'espère pas, c'est-à-dire je ne me vois pas en train de travailler avec mon sac au boulot, aller au boulot, si je n'espère pas, je n'obtiendrai pas parce que je n'ai pas la foi. Même si je prie, même si je viens à des veillées, ribosa, je travaille, je possède. Mais tu penses à quoi? Pendant que, au lieu de penser à tes espérances, tu es en train de penser à ce que tu crées. C'est-à-dire que, pendant que, au lieu de penser à ce que tu travailles, toi, tout ton esprit est sur les problèmes du chômage. Et maintenant, pendant que tu pries, comment je vais fuir le chômage? Je brise le chômage. Vous savez, c'est plus intéressant de prier pour dire j'ai du travail que de prier pour dire je brise le chômage. Parce qu'en disant que tu brises le chômage, tu penses plus au chômage que tu ne penses à ton travail. Je n'ai pas dit de ne pas briser le chômage, mais je dis ce qui brise, c'est le rêve et non la fuite de ce qu'on craint. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça fait une différence entre deux personnes chrétiens sanctifiées. J'enlève de côté les chrétiens qui ne sont pas sanctifiés. Mais les gens qui sont sanctifiés, il y a deux personnes qui prient pour un sujet. Il y a un qui prie avec une espérance, l'autre prie sans rêve. C'est-à-dire, il ne s'imagine pas l'exaucement de son sujet. Comment il sera quand il sera exaucé? Ce n'est pas dans sa tête. Tout ce qu'il voit, il ne pense qu'à ses problèmes. Et la galère, mon frère, la galère. Dans la vie, on n'a pas l'argent, le pays est dur. C'est tout ce qu'il voit. Et c'est dominant. Maintenant, d'un coup, sur 100% de sa pensée, donc 80% en train de réfléchir au problème du chômage. Et un, comment dirais-je, 20%, sinon même moins bien, même 10%, 90%, 10%, il pense un peu, quelquefois même moi-même, il rêve même pas même qu'il travaille un jour. Aucune espérance. Il prie, mais il n'a pas d'espérance. Donc il ne peut pas avoir la foi. Même s'il prie en se concentrant, même s'il fait 40 jours de jeûne, ça ne marche pas. Ce n'est pas le jeûne qui amène l'exaucement. C'est la foi. Quelqu'un me suit? On va s'arrêter là. Alléluia. Alors, dimanche prochain, on va encore me parler de l'espérance. On va parler de la démonstration. Ah, là, c'est encore trop fort. Amen. Mes amis, commencez déjà à espérer. Amen. Je disais ça, je savais que c'est au premier coup, je parlais à une dame. Je dis, voilà, tu es là. Tu pries pour ton enfant. Ton enfant, tu t'es converti. Ton enfant est brigand. Il fait des choses. Il boit, il fume, il vole. Pendant que tu pries pour lui, quand tu commences à prier pour que Dieu le transforme, prie avec un rêve. Prie en voyant que ton enfant va devenir un jour bien. Tu le vois rentrer à la maison, on met 1 million même. L'enfant vient puis il dépasse. Tu vois, ça fait une différence entre celle qui prie, Seigneur, sauve mon enfant. Mais elle est tout en train de ressasser dans son esprit les 10 millions qu'il a volés, les 1 million qu'il a pris, les 100 000 francs. C'est ce à quoi elle pense. Au lieu de penser à son espérance, elle pense à ce qu'elle veut fuir. Et ce qu'elle veut fuir va continuer. Ce que je crains, c'est ce qu'il m'arrive. C'est-à-dire, je dois inverser. Il y a 10% qui sont là pour dire, mon enfant, effectivement, il est un bandit. 80% sont consacrés à mon rêve. Je le vois devenir bien. Un homme honnête, sérieux, gentil. Là, tu commences à manifester la foi. Ce n'est que le début. Il y a encore 3 autres étapes. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Oh Seigneur Dieu des cieux. Baisse la tête, parle à ton Dieu. Seigneur, viens au secours de notre foi. Merci pour la foi que tu nous donnes. Merci pour l'espérance nouvelle que tu nous donnes. Alors déjà ce soir, en partant de ce lieu, je veux que vous commenciez à faire cet exercice spirituel. C'est l'exercice du rêve, l'exercice de l'espérance. Alors regardez les problèmes, les défis qui ont été pour vous, qui persistent jusqu'à ce jour. Et aujourd'hui même, pendant que vous avez baissé la tête, et même avant même que vous rentrez chez vous à la maison, quand vous serez chez vous à la maison, changez vos manières de penser. Commencez à penser que le problème est réglé. En fait, voyez ce que vous souhaitez dans votre maison, dans votre foyer, dans votre entreprise. Commencez à espérer ce que vous souhaitez. Et laissez votre espérance être primordiale, être principalement dans votre esprit, dans votre tête. Seigneur Dieu des cieux, merci parce que tu viens au secours de notre foi. Mène main sur ton cœur. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant touche ton cœur. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant vient au secours de ta foi. Il te remplit ce soir d'espérance, d'espoir, de rêve. Tu commences à ne plus penser à tes cauchemars, aux choses qui t'effraient, mais à penser aux choses auxquelles tu rêves. Comment vois-tu ta maison demain avec ton mari? Comment vous serez heureux? C'est ce qui doit être dans ton esprit en ce qui concerne ton foyer. En ce qui concerne tes enfants, tu dois vivre ton espérance. Tu veux avoir un enfant, tu dois commencer à espérer, à voir l'enfant, à rêver ton enfant. Comment tu vas l'attraper? Comment tu vas jouer avec lui? Arrête de penser à comment, ah, je risque de vieillir sans enfant. Arrête de réfléchir, de focaliser ton esprit sur quand je vais atteindre la ménopause. Arrête de focaliser ton esprit sur ton âge qui est en train d'avancer. Mais focalise ton esprit sur ton rêve. Si tu continues à focaliser ton esprit sur ce que tu crains, c'est ce qui t'arrivera. Si tu focalises ton esprit sur ton âge qui est en train de passer, c'est ce qui va perdurer. Mais si tu commences à regarder véritablement à ton rêve, à l'enfant que tu vas prendre dans tes bras, à ce mari-là que tu vas embrasser, à ce que tu vas avoir, à ce travail que tu vas obtenir, alors tu commences à manifester la foi. Il te reste encore 3 autres étapes, la fermeté, l'assurance, la démonstration. Seigneur Dieu des cieux, merci pour ce que tu fais dans nos vies. Merci parce qu'aujourd'hui, tu transformes nos espérances. Tu nous donnes de l'espérance, Seigneur Dieu. Tu renouvelles nos pensées, les pensées de notre cœur. Sois honoré, sois magnifié pour tout ce que tu fais. Béni sois-tu, Dieu vivant, au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia.
Si ce message vous a édifié, procurez-vous d'autres messages sur des thèmes tout aussi enrichissants. Au revoir et à un autre message.